Chapitre 33. Bobby et Didi retournèrent au QG en silence. Bobby au volant, Didi sur le siège passager. Les poings serrés sur ses genoux, elle essayait de ne penser à rien, mais son cerveau s'emballait quand même. Elle n'avait rien mangé de la journée et n'avait dormi au mieux que d'un œil la nuit précédente. Si on ajoutait à ça la journée la plus merdique de toute sa carrière, elle avait bien le droit de perdre un peu le nord et d'embrasser un homme marié, tout en portant l'enfant d'un autre. Rien de plus logique. Elle appuya son front contre la vitre fraîche et regarda la neige. Les flocons glacés tombaient dru à présent. Effaçaient les traces de Tessa Léonie. Bloquaient la circulation, compliquaient un recueil de preuves déjà compliqué. Avant de quitter la scène de crime, elle avait appelé son supérieur. Mieux valait que Organe apprenne la situation par elle, plutôt que par un flash dans les médias où la nouvelle risquait d'éclater d'un instant à l'autre. Didi avait perdu une femme soupçonnée d'un double meurtre. Elle l'avait emmenée dans un coin perdu du Massachusetts où son équipe tout entière était tombée dans le piège tendu par une débutante. La police municipale allait passer pour une bande de bras cassés. Sans compter que vu l'ampleur qu'était en train de prendre les opérations, la brigade de recherche des fugitifs, qui appartenait à la police d'État, allait très certainement leur retirer toute l'affaire. Donc, non contente d'avoir l'air incompétente, la police municipale allait perdre toute chance de se racheter. Un aller simple pour le royaume des abrutis.
Ce que ne manquerait pas de souligner tous les journalistes à l'avenir. La meurtrière présumée Tessa Léonie, que la police de Boston a laissée s'évader.
Autant espérer être enceinte, pensa Didi. Comme ça, au lieu d'être renvoyée, elle pourrait partir en congé maternité. Elle avait mal. Littéralement. Mal à la tête, à la poitrine aussi. Elle pleurait la perte de Sophie Léonie, une mignonne petite fille qui méritait mieux. Est-ce qu'elle attendait tous les matins avec impatience que sa mère rentre du travail? Câlins et bisous, blottis contre elle pour écouter des histoires ou lui montrer fièrement ses derniers dessins? Didi l'aurait parié. Les enfants sont comme ça. Ils aiment, sans limite, de tout leur cœur. Avec chaque fibre de leur être. Ensuite, les adultes de leur entourage les trahissent. La police les trahit. Et ça ne s'arrête jamais. J'aime ma fille.
Je vais m'arrêter, dit Bobby en mettant son clignotant à droite. Il faut que je mange. Tu veux quelque chose?
Didi fit signe que non.
Et pourquoi pas des céréales? Il faut que tu avales quelque chose, Didi. Les hypoglycémies ne t'ont jamais réussi.
Pourquoi tu fais ça?
Quoi?
T'occuper de moi.
Bobby quitta la route des yeux le temps de la regarder.
Je parie qu'Alex en ferait autant. Si tu le laissais faire.
Elle fit la grimace. Bobby fit semblant de ne pas voir son regard noir et retourna son attention vers la route traîtresse. Il fallut quelques minutes pour changer de fil en douceur, trouver la sortie et rejoindre le parking d'une petite galerie marchande. Didi remarqua la présence d'une teinturerie, d'une animalerie et d'une supérette. C'était la supérette que visait Bobby. Ils trouvèrent une place juste devant, les conditions météo hivernales ayant fait fuir la plupart des clients. En descendant de voiture, Didi fut surprise de découvrir la couche de neige qui s'était déjà accumulée. Bobby fit le tour du véhicule et lui offrit son bras sans mot dire. Elle accepta son aide et avança avec prudence sur le trottoir enneigé jusqu'au magasin illuminé. Bobby prit la direction du rayon traiteur. Didi tint 5 secondes avant que l'odeur de poulet rôti ne la fasse battre en retraite. Elle laissa donc Bobby et déambula de son côté, attrapa une pomme au rayon fruits et légumes, une boîte de Cheerios au rayon céréales. Peut-être un de ces jus de fruits bio à la mode, pensa-t-elle, ou un cocktail protéiné? Elle pourrait ne plus se nourrir que de boissons diététiques. Ce serait la prochaine étape logique. Elle se retrouva dans le petit rayon pharmacie et sut en un éclair ce qu'elle allait faire. Vite, avant qu'elle puisse changer d'avis et avant que Bobby arrive, contraceptif, préservatif, préservatif et, bien sûr, pour les cas où le préservatif craquait, test de grossesse. Elle attrapa la première boîte qui lui tomba sous la main, uriner sur un bâtonnet, attendre de voir ce qu'il disait. Ça ne devait pas être bien sorcier.
Pas le temps de payer. Bobby la repérerait forcément. Alors elle fila vers les toilettes, pommes, boîtes de céréales et tests de grossesse serrés contre elle. Un panonceau vert indiquait qu'il était interdit d'entrer dans les toilettes avec des articles. « On s'en fout !» pensa-t-elle en poussant la porte. Elle s'adjuge à la cabine pour handicapés. Il s'y trouvait une table à longée murale en plastique. Elle l'ouvrit et s'en servit comme plan de travail. Pomme, Cheerios, test de grossesse. Ses doigts tremblaient, violemment, au point qu'elle n'arrivait pas à lire ce qui était écrit sur la boîte. Alors elle reposa le test sur la table allongée et lut les instructions tout en défaisant le bouton de son pantalon pour le descendre jusqu'au genou. C'était sans doute le genre de choses que les femmes faisaient chez elles, dans un confort douillet au milieu de leurs serviettes préférées, de murs couleur pêche et de peau pourrie de fleurs séchées. Elle s'accroupit dans ses toilettes publiques au carrelage gris industriel et fit ce qu'elle avait à faire. Essayer de positionner le bâtonnet avec ses doigts toujours tremblants et uriner sur commande. Il lui fallut s'y reprendre à trois fois. Elle posa le bâtonnet sur la table allongée, refusant de le regarder. Finie d'uriner, remonta son pantalon, alla se laver les mains au lavabo. Puis elle retourna dans la cabine. Dehors, elle entendit la porte des toilettes s'ouvrir. Les pas d'une autre femme qui entrait se dirigeaient vers la cabine voisine. Didi ferma les yeux, retenant son souffle. Elle se sentait prise en faute, comme une mauvaise élève qui fume dans les toilettes. Il ne fallait pas qu'on la voie, qu'on la découvre. Pour qu'elle regarde le bâtonnet, il lui fallait une intimité absolue. Chasse d'eau, porte de cabine qui s'ouvre, bruit de l'eau qui coule dans le lavabo, souffle du sèche-main automatique. La porte extérieure s'ouvrit, se referma. Didi était de nouveau seule. Lentement, elle entr'ouvrit un œil, puis le deuxième. Elle regarda le bâtonnet. Un signe plus rose. Le commandant Didi Warren était officiellement enceinte. Elle se rassit sur les toilettes, se prit la tête entre les mains et fondit en larmes. Plus tard, assise sur le bord des toilettes, elle mangea la pomme. L'afflux de sucre dans son sang lui donna d'un seul coup une faim de loup. Elle dévora la moitié de la boîte de céréales et quitta les toilettes en quête de barres énergétiques, assortiments de fruits secs, chips, yaourts et bananes. Lorsque Bobby finit par la retrouver, elle faisait la queue à la caisse avec son trognon de pomme, une boîte de céréales entamée, un test de grossesse ouvert et une demi-douzaine d'autres articles. La caissière, trois piercings au visage et une constellation de tatouages en forme d'étoile, la regardait d'un œil clairement désapprobateur. « Où tu étais passé ?» demanda Bobby contrarié. « J'ai cru que je t'avais perdu. » Puis son regard tomba sur le test de grossesse. Il ouvrit de grands yeux et ne dit plus un mot. Didi tendit sa carte de crédit, prit ses sacs de course. Sans dire un mot, elle non plus. Ils arrivaient à la voiture lorsque son portable sonna. Elle regarda qui appelait, Phil, depuis le QG. Le boulot, tout juste ce dont elle avait besoin. Elle décrocha, écouta ce que Phil avait à dire et, suite à ce qu'il lui annonçait, ou à ses ripailles, se réconcilia un peu avec sa journée. Elle rangea son téléphone et se retourna vers Bobby, posté à côté de la voiture. « Tu sais quoi ? Tessa Léonie a passé un coup de fil pendant qu'elle était au bon soin du bureau du shérif de Suffolk County. À 21h hier soir, elle a appelé sa meilleure amie d'enfance, Juliana Sophia O. La sœur du mec qu'elle a tué ? Tout juste. Bon, si tu étais arrêtée pour le meurtre de ton conjoint, quelle probabilité il y aurait que tu appelles la famille de la dernière personne que tu as tuée ? C'est louche, dit Bobby. Je trouve aussi. Le visage de Didi s'illumina. « On va se la faire. » « Ça marche. » Bobby ouvrit sa portière et se figea. « Didi. » Il jeta un coup d'œil vers ses sacs de course. « Heureuse ?»«
Oui. »
dit-elle en hochant lentement la tête.
« Je crois que oui. »
En arrivant chez Juliana après un trajet périlleux, Bobby et Didi découvrirent la petite maison illuminée comme en plein jour, derrière les gros flocons qui tombaient avec lenteur. Une familiale gris métallisé et une berline plus sombre étaient garées dans l'allée. Alors que Bobby et Didi approchaient, la porte d'entrée s'ouvrit et un homme apparut.
Il portait encore son costume de bureau, mais avait les bras chargés d'un bébé et d'un sac allongé. Il rencontra leur regard alors qu'il gravissait le perron.
« Je lui ai déjà dit d'appeler un avocat, » dit-il.
« Le mari attentionné, » conclut Didi. « Elle en a besoin ?»«
C'est une femme bien, et une mère formidable. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, retournez donc tuer son frère. Lui aurait mérité d'être poursuivi, pas elle. »
Ayant dit ce qu'il avait à dire, le mari de Juliana passa entre eux en les bousculant et marcha dans la neige jusqu'à la berline bleu marine. Encore une minute pour attacher bébé à l'arrière et la famille de Juliana eut déblayé le terrain.
« Nous sommes attendus, on dirait, » murmura Bobby.
« On va se la faire, » répéta Didi.
Le mari aimant n'avait pas complètement tiré la porte derrière lui, si bien que Bobby n'eut qu'à la pousser pour ouvrir. Juliana était assise sur le canapé en plein dans l'axe de la porte. Elle ne se leva pas, mais les regarda sans émotion. Didi entra la première. Elle montra sa plaque et présenta Bobby. Juliana resta assise. Bobby et Didi restèrent debout. La pièce bruissait déjà de tension et il fut donc facile à Didi d'en tirer la conclusion logique.
« Vous l'avez aidée, hein ? Cet après-midi, vous êtes passé chercher Tessa Léonie sur les lieux où elle avait enterré sa fille. Vous vous êtes rendu complice d'une fugitive. Pourquoi ? Voyons. »
continua Didi en montrant autour d'elle la jolie petite maison avec ses peintures neuves et sa joyeuse collection de jouets de bébé. « Pourquoi risquer de perdre tout ça ?»«
Elle n'est pas coupable. »
Didi leva un sourcil.
« Quand est-ce que vous avez pris la pilule qui rend bête et combien de temps il faut pour que les effets s'estompent ?»«
Ce n'est pas moi l'imbécile ici, » répondit farouchement Juliana. « C'est vous. »«
Comment ça ?»«
C'est toujours comme ça avec vous. » éclata Juliana avec amertume. « La police, les flics, vous regardez mais vous ne voyez rien, vous demandez mais vous n'entendez rien. Il y a 10 ans, ils ont foiré sur toute la ligne. Pourquoi ce serait différent aujourd'hui ?»
Didi observa la jeune maman, interloquée par la violence de son emportement. Alors elle comprit ce que le mari leur avait dit dehors. Pourquoi Juliana avait inexplicablement accepté d'aider la femme qui avait détruit sa famille 10 ans plus tôt. Son ressentiment persistant contre la police. Didi fit un premier pas, un deuxième. Elle s'accroupit, se retrouva à la hauteur de Juliana, vit ses joues sillonnées de larmes.
« Dites-nous, Juliana, qui a tué votre frère cette nuit-là ? Il est temps de vous libérer de ce poids. Alors parlez. Je vous promets qu'on écoutera. Ce n'était pas Tessa qui avait le pistolet, » murmura Juliana haut. Elle l'avait apporté pour moi, parce que je lui avais demandé. Elle n'avait pas le pistolet, à aucun moment. Qui a tiré sur Tommy, Juliana ?
C'est moi.
J'ai tiré sur mon frère. Et je suis désolée, mais je recommencerai s'il le fallait.
Maintenant que le barrage avait enfin cédé, Juliana confessa le reste de l'histoire d'un trait, en sanglotant. La première nuit où son frère avait abusé d'elle à son retour à la maison, le lendemain matin, où il l'avait supplié en pleurant de lui pardonner, il avait bu et il ne savait pas ce qu'il faisait. Bien sûr, plus jamais ça n'arriverait. Mais pitié, il ne fallait rien dire à papa et maman. Elle avait accepté de garder son secret, mais ensuite, cela s'était reproduit. 6 fois, il l'avait violée. Et il n'était plus saoul. Et il ne s'excusait plus. Il lui disait que c'était sa faute, si elle ne s'habillait pas comme ça, si elle ne s'exhibait pas sous son nez. Alors elle avait commencé à porter des vêtements trop larges, à ne plus se coiffer ni mettre de maquillage. Est-ce que cela avait aidé ? Ou est-ce que c'était simplement parce qu'il était parti pour l'université, où il avait trouvé plein d'autres filles à violer ? En tout cas, il la laissait la plupart du temps tranquille. Sauf le week-end. Elle n'arrivait plus à se concentrer en cours. Avait toujours des cernes noires sous les yeux parce que si on était vendredi, alors Tommy allait peut-être rentrer à la maison et il fallait qu'elle soit vigilante. Elle avait ajouté un verrou à la porte de sa chambre. 2 semaines plus tard, en revenant de l'école, elle avait trouvé la porte complètement fracassée.
« Je suis vraiment désolée, » avait dit Tommy pendant le dîner. « Je n'aurais pas dû courir comme ça dans le couloir.
et ses parents l'avaient regardé avec un grand sourire parce qu'il était leur fils aîné et qu'ils étaient en adoration devant lui. Un lundi matin, Giuliana avait craqué. Arrivée à l'école, elle s'était mise à pleurer inconsolable. Tessa l'avait emmenée dans la cabine du fond des toilettes des filles et elle avait attendu que Giuliana arrête de pleurer et se mette à parler. Ensemble, elles avaient mis au point un plan. Le père de Tessa avait un pistolet. Elle le prendrait. « De toute façon, il ne fait jamais attention, » avait dit Tessa. « Ça ne devrait pas être difficile. » Tessa devait donc prendre le pistolet et l'apporter le vendredi soir. Elle serait invitée à dormir, elle monterait la garde. Quand Tommy arriverait, Giuliana sortirait l'arme, elle braquerait le pistolet sur lui en lui disant que si jamais elle s'avisait de la toucher encore, elle lui ferait exploser les couilles. Elle s'était entraînée à dire cette phrase. Elle leur plaisait. Ça paraissait logique, planqué dans les toilettes. Tommy, comme n'importe quel tyran, avait besoin de rencontrer de la résistance, alors il battrait en retraite et Giuliana serait de nouveau en sécurité. Tout ça paraissait parfaitement logique. Dès le jeudi, Tessa avait le pistolet. Le vendredi soir, elle était venue et l'avait donné à Giuliana. Ensuite, elle s'était installée sur le canapé et un brin nerveuse avait commencé leur soirée cinéma. Tessa s'était endormie par terre, Giuliana sur le canapé. Mais toutes les deux s'étaient réveillées quand Tommy était rentré. Pour une fois, il n'avait pas regardé sa sœur, mais il ne pouvait plus détacher ses yeux de la poitrine de Tessa.
« Comme des pommes mûres !»
avait-il dit en s'approchant d'elle d'un pas mal assuré alors que Giuliana sortait triomphalement le pistolet. Elle l'avait braqué sur son frère. Elle lui avait ordonné de s'en aller, de les laisser tranquilles, Tessa et elle, sinon... Mais Tommy l'avait regardé en s'esclaffant.
« Sinon quoi? Est-ce que tu sais même tirer avec ce truc? À ta place, je vérifierai le cran de sûreté. »
Giuliana avait immédiatement levé l'arme pour vérifier le cran de sûreté. Alors Tommy s'était jeté sur elle pour essayer d'attraper le pistolet. Tessa criait, Giuliana criait. Tommy montrait les dents, tirait les cheveux de Giuliana, mettait ses mains partout sur elle. Le pistolet écrasé entre eux. La balle qui partait, Tommy qui reculait en regardant sa jambe d'un air estomaqué.
« Salope !»
avait dit son frère, le dernier mot qu'il lui avait dit.
« Salope !»
avait-il répété avant de s'effondrer pour lentement, mais sûrement, mourir. Giuliana avait paniqué. Elle ne voulait pas. Ses parents, mon Dieu, ses parents! Elle avait mis le pistolet dans les mains de Tessa. Il fallait que Tessa le prenne. Il fallait que Tessa se sauve. Qu'elle s'en aille. Va-t'en, va-t'en, va-t'en! Alors Tessa l'avait fait. Et ces mots avaient été les derniers que Giuliana avait dit à sa meilleure amie. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Le temps que Tessa rentre chez elle, la police arrivait chez Giuliana. Giuliana aurait pu reconnaître les faits, elle aurait pu avouer comment était vraiment son frère, mais sa mère criait comme une hystérique, son père était frappé de stupeur, et elle n'avait pas pu s'y résoudre. Elle n'avait pas pu. Giuliana avait murmuré le nom de Tessa à la police, et en un clin d'œil, la fiction était devenue réalité. Tessa avait tué son frère. Et Tessa n'avait jamais démenti. « J'aurais avoué, » dit Giuliana. Si ça avait été jusqu'au procès, si Tessa avait vraiment paru en mauvaise posture, j'aurais avoué. Mais d'autres femmes ont commencé à témoigner, et il est devenu clair que Tessa ne serait jamais inculpée. Le procureur lui-même a dit qu'à ses yeux c'était de la légitime défense. J'ai cru qu'elle s'en sortirait bien. Et mon père, à ce moment-là, c'était une épave. S'il ne pouvait pas accepter l'idée que Tommy ait agressé d'autres femmes, comment aurait-il cru ce qu'il m'avait fait à moi? Ça paraissait mieux de ne rien dire, sauf que plus on se tait, plus ça devient difficile de parler. J'avais envie de voir Tessa, mais je ne savais pas quoi dire. J'avais envie que mes parents sachent ce qui s'était passé. Mais je ne savais pas comment leur dire. J'ai perdu la parole, littéralement. Pendant un an. Et mes parents ne s'en sont même pas aperçus. Ils étaient trop occupés avec leur dépression nerveuse pour se soucier de la mienne. Ensuite, Tessa a disparu. J'ai entendu dire que son père l'avait jetée dehors. Elle ne m'en a jamais rien dit. Elle n'est pas passée me dire au revoir.
Peut-être qu'elle aussi était devenue muette. Je n'ai jamais su. Jusqu'à votre visite d'hier matin, je ne savais pas qu'elle était devenue policière. Je ne savais pas qu'elle s'était mariée. Et je ne savais pas qu'elle avait une petite fille qui s'appelait Sophie. C'est mon deuxième prénom, vous savez. Elle a donné mon nom à sa fille. Après tout ce que je lui avais fait, elle a quand même donné mon nom à sa fille.
Une fille qui est morte aujourd'hui, remarqua brutalement Didi.
Vous vous trompez. C'est vous qui vous trompez, Giuliana.
Nous avons vu le corps. Du moins, des morceaux. Elle l'a fait exploser.
Giuliana blêmit, mais secoua de nouveau la tête.
Vous vous trompez,
s'entêta la jeune femme.
Encore une fois, venant d'une femme dont les parents sont des spécialistes du déni, vous ne connaissez pas Tessa.
Depuis 10 ans, vous non plus.
Elle est maligne, débrouillarde. Mais elle ne ferait pas de mal à un enfant, pas après ce qui est arrivé à son frère.
Bobby et Didi se regardèrent.
Quel frère ?
Un bébé mort-né.
C'est ça qui a déchiré sa famille. Des années avant que je la rencontre. Sa mère a fait une grave dépression. Elle aurait probablement dû être hospitalisée, mais qu'est-ce qu'on savait de ces choses-là à l'époque ? Elle vivait cloîtrée dans sa chambre. Elle n'en sortait jamais et, en tout cas, elle ne s'est jamais occupée de Tessa. Son père faisait de son mieux, mais il n'était pas très présent. Ça n'empêchait pas Tessa de les aimer. Elle essayait de s'occuper d'eux à sa manière. Et elle aimait aussi son petit frère. Un jour, nous lui avons fait un enterrement, juste elle et moi. Et elle a pleuré, vraiment pleuré, parce que c'était la seule chose qu'on n'avait jamais le droit de faire chez elle.
Didi regardait Giuliana. Vous savez quoi ? Vous auriez pu m'en parler avant.
Et vous ? Vous auriez pu comprendre avant. Les flics, il faut que ce soit les victimes qui fassent tout le boulot à votre place.
Didi se hérissa. Bobby posa vite une main apaisante sur son bras. « Où l'avez-vous emmenée ? » demanda-t-il posément.
« Je ne sais pas de quoi vous parlez, »
dit Giuliana. « Vous êtes allée chercher Tessa en voiture. Vous l'avez déjà reconnue. »«
Non, c'est faux. Votre collègue a dit que j'étais allée la chercher en voiture. Moi, je n'ai jamais rien dit de tel. »
Didi grinça des dents.
« Vous voulez la jouer comme ça ?»
Elle montra les jouets qui jonchaient le sol.
« On peut vous emmener au QG, saisir votre voiture, la mettre en pièces pendant que vous moisirez derrière les barreaux.
Quel âge a votre enfant déjà ? Parce que je ne sais pas si les bébés ont le droit de faire des visites en prison. »
« Tessa m'a appelé lundi, peu après 21 h, »
répondit Giuliana d'un air de défi.
« Elle a dit, « À quoi servent les amis ?» J'ai dit, « Tessa ?» Parce que j'étais surprise d'entendre sa voix après toutes ces années. Elle a dit qu'elle me rappellerait. Et elle a raccroché. Voilà ce qu'on s'est dit. Et c'est le seul échange que j'ai eu depuis 10 ans avec Tessa Leoni. Si vous voulez savoir pourquoi elle a appelé, ce qu'elle voulait dire et si elle avait l'intention de me recontacter, il va falloir lui poser la question.
Didi en restait comme 2 ronds de flanc, littéralement. Qui aurait cru que la petite camarade banlieusarde de Tessa aurait un tel cran ?
Un seul cheveu dans votre voiture. Et vous êtes fichu.
Giuliana fit mine de se prendre la tête à 2 mains.
« Oh mince, je suis désolée. Je vous ai dit que j'avais passé l'aspirateur. Oh, et justement l'autre jour, j'ai appris la meilleure recette de grand-mère pour laver sa voiture, un truc avec de l'ammoniaque. »
Didi regarda cette parfaite ménagère.
« Je vais vous coffrer, rien que pour ça.
Allez-y. »
Tessa a tué son mari. Elle a traîné son corps jusque dans le garage et elle l'a recouvert de neige,
répondit brusquement Didi.
Tessa a tué sa fille, elle a emporté son corps dans les bois et elle l'a piégé avec des explosifs suffisamment puissants pour descendre l'équipe de recherche. Voilà la femme que vous essayez de protéger.
Voilà la femme dont vous pensiez qu'elle avait tué mon frère,
corrigea Giuliana.
Vous vous trompiez. De là à imaginer que vous vous trompez sur le reste.
Nous ne nous trompons pas.
Mais Didi s'interrompit, l'air soucieux. Une idée venait de lui traverser l'esprit, ce doute insidieux qu'elle avait éprouvé dans la forêt.
Et merde.
Il faut que je passe un coup de fil. Vous, pas bouger. Éloignez-vous d'un pas de ce canapé, et je vous jette en tôle. Puis d'un signe de tête, Elle fit signe à Bobby de la suivre sur le perron où elle sortit son portable.
« Qu'est-ce ?»
commença-t-il, mais elle le fit taire.
« Le service de médecine légale ?»
demanda-t-elle dans le téléphone.
« Allez me chercher Ben. Je sais qu'il travaille. Pourquoi vous croyez que j'appelle ? Dites-lui que c'est le commandant Warren, parce que je vous parie qu'il est devant un microscope en train de se dire qu'il y a comme un blême. »